Mathias Sénard.
Exploration des moteurs, des engrenages de la littérature d'aujourd'hui. Écoutons le concert des bielles de la fiction, les pistons du récit. Tour à tour autrice, traducteur, mais aussi dessinatrice ou scénariste de bande dessinée nous font visiter leur salle des machines. Nous ouvrent le capot de leurs livres et nous expliquent comment elles et ils plongent les mains dans le cambouis. De quelle façon on met à la voile, ou même, de temps en temps, à la rame. Comme disait Blaise Cendrars à bord du paquebot Normandie, je les verrai à l'œuvre dans les fonds, les soutiers, les huileurs, les graisseurs, les mécanos, tous les gars de la machine. Soyez les bienvenus dans la salle des machines, consacrée aujourd'hui aux équilibristes du récit, aux trapézistes du roman, aux dompteurs de dessin. Tout d'abord, nous recevrons l'exceptionnel Lévis Trondheim, scénariste et dessinateur de bande dessinée, qui publie, avec Alfred au dessin, Castelmore, aux éditions Delcourt. Puis, notre caillou dans les poches sera consacré à l'émouvante Juliette Binoche, lisant la non moins émouvante Marguerite Duras de L'Amant. Ensuite, ce sera Elisa Chua du Sapin qui nous parlera de la barre russe du Vladivostok Circus, paru chez Zoé. Et enfin, Marius Geoffrey, auteur du Fumoir aux éditions Anne Carrière, lancera son message à la salle des machines.
C'est lui.
C'est lui.
De qui se moque-t-on?
Oh, diable!
Où est l'enfant?
C'est moi.
Oh, et de plus il parle.
Pas de père, pas d'enfant.
L'affaire est chaude.
Elle brûle.
Je suis l'enfant. Je sais qui est le père. Si je le dis, relâcherez-vous ma mère?
Si tu prouves que tu es l'enfant. Maître Blaise, quelle est cette comédie?
Mon père, c'est le diable.
Qu'on le brûle,
qu'on le brûle,
qu'on le brûle,
qu'on le brûle.
C'est mon père qui vous cherche, mauvais juge. Maître Blaise, ai-je dit la vérité?
Oui.
Dites-leur.
Alors Maître Blaise leur fit le récit du concile des démons, de la conception et de la naissance de Merlin.
Qu'on le brûle! Qu'on les brûle!
Mais si, hein. Par son père, il appartenait aux démons. Par son baptême, il en est délivré. Il appartient à Dieu.
Dois-je le prouver?
Qu'on les relâche!
Bonjour, Lévis Trondheim. Merci de nous rejoindre dans la salle des machines. Lévis Trondheim, est-ce que vous vous êtes nourri des histoires médiévales fantastiques comme cette naissance de Merlin que nous venons d'entendre, ce livre de Maître Blaise de Romain Weingarten adapté sur France Culture en 1983?
Bonjour Mathias. Non, absolument pas. Je ne me suis pas nourri de culture médiévale. J'étais plus dans la Greek fantasy et l'horreur avec Lovecraft.
Lévis Trondheim, vous êtes un des phares de la bande dessinée française, à la fois scénariste et dessinateur. Vous êtes l'auteur dans l'une, l'autre ou les deux de ces catégories d'une centaine d'albums pour lesquels vous avez reçu nombre de prix, dont le Grand Prix de la ville d'Angoulême en 2006. Il ne manque qu'un fauve à votre palmarès, sans doute vous est-il impossible de le recevoir car c'est vous-même qui l'avez dessiné, ce fauve. Vous êtes par ailleurs un des fondateurs de la maison d'édition L'Association, dans laquelle vous avez publié ce premier pavé dans le potager qu'était Lapineau et les carottes de Patagonie. Vous êtes aussi directeur de la collection Shampoing aux éditions Delcourt. Et très récemment, vous publiez toujours aux éditions Delcourt l'horrifique et surprenant Castelmore, roman graphique avec Alfred au dessin. Alfred, dessinateur entre autres de la série Le désespoir du singe, ou du beau roman graphique calme et mélancolique comme Prima, toujours chez Delcourt. Lévi-Strondheim, alors avant de rentrer dans les sombres détails de Castelmore, expliquez-nous comment se passe cette rencontre avec Alfred. Est-ce que le scénariste que vous êtes choisit un dessinateur une fois un scénario écrit, ou est-ce que c'est d'abord l'envie d'une collaboration qui vous pousse vers une histoire ?
Tout est possible en fait. Moi j'ai dû écrire à peu près 180 livres depuis une trentaine d'années, dont les trois quarts sont faits en collaboration. Avec Alfred, c'est une vieille amitié qui remonte au moment où lui était jeune auteur. Il faisait un fanzine, et je crois que c'est au Festival Angoulême où je l'ai croisé sur son stand, je lui ai acheté son fanzine et de là est né quelque chose en tout cas dans son cœur, et moi je l'ai suivi de loin en loin. On s'est croisé dans l'aventure Donjon parce qu'il nous a dit à un moment « Ah, j'aimerais bien dessiner un donjon ». Donc ça a été chose faite en 2011 ou 2012. Et là, c'est lui qui est venu me chercher en me disant, ça devait être en 2016, il m'a dit « J'aimerais bien que tu m'écrives un conte médiéval ». Et là, j'étais là « Waouh, j'ai jamais fait ça ». Donc dès que quelque chose je n'ai jamais fait, ben, ça m'intéresse d'aller un peu plus loin et de tenter l'aventure. Et il m'a dit « Si tu veux, moi je te donne des éléments et tu en fais ce que tu veux, tu les prends pas ». Et tu m'écris quelque chose. Et je lui dis, mais quelle forme, combien de pages, couleur, noir et blanc. Il me dit, c'est peu importe, fais comme tu le sens. Et donc il m'a donné des éléments, du genre un château entouré par une tempête éternelle, trois femmes de trois générations différentes dans une barque, un orque sur un pont qui ne veut plus manger les gens et ne veut plus leur demander de pièces d'or quand il passe, une sorcière, un chasseur qui est perdu dans la forêt depuis des décennies. Et dans l'eau, vous avez sans doute reconnu certains éléments que j'ai récupérés pour Castelmore qui m'ont intéressé, qui m'ont intrigué, auxquels j'ai rajouté quelques ingrédients pour lier toute la sauce.
Et alors comment est-ce que vous travaillez, Lévi-Strondheim ? Vous êtes aussi dessinateur. Est-ce que cela change votre façon d'appréhender le scénario ? Est-ce que vous storyboardez votre récit ? Qu'est-ce que vous donnez exactement à Alfred quand vous lui donnez son histoire ?
Déjà, je demande à Alfred qu'est-ce qu'il veut. Et de la même façon que quand j'ai travaillé avec Mathieu Bonhomme ou avec Stéphane Wary sur d'autres projets, je leur dis, qu'est-ce que vous voulez que je vous envoie? Est-ce que vous voulez un tapuscrit ou quelque chose avec des personnages patates? Parce que moi, de toute façon, je fais des personnages patates de case à case. Ça m'aide à structurer la rythmique de la bande dessinée. Mais après, s'ils veulent, je peux tout retaper sur écran et leur envoyer quelque chose exactement sans dessin. Et Alfred, comme on avait bien bossé ensemble sur Donjon, il m'a dit que lui, ça ne le dérangeait pas d'avoir des dessins, des bonhommes patates. Et j'ai commencé à travailler, je pense que ça devait être autour du 13-14 juillet d'il y a 2 ans. Et j'ai commencé à faire une histoire et ça me plaisait bien. J'ai trouvé un système de structure en 16 pages systématique. Et je lui ai dit, écoute, si tu veux, je t'envoie les 32 premières pages. Il me dit oui, d'accord, mais pas plus, parce que là je suis sur un autre projet et j'ai pas envie de tout savoir à l'avance de ce qui va se passer. Je lui dis ok, il n'y a pas de problème. J'envoie les 32 premières pages, il me dit ouais, c'est super, c'est très bien. Mais entre le moment où je les envoie et le moment où les lis, j'en ai écrit 32 autres. Et je lui dis écoute, j'en ai écrit 32 autres et on comprend un peu mieux la structure du récit, parce que comme c'est un peu un récit choral avec beaucoup de personnages qui vont vers une espèce de crescendo et à la fin ils se rassemblent tous et on comprend tout ce qu'ils ont à faire ensemble, peut-être ce serait bien que tu lises jusqu'à la page 64. Il lit jusqu'à la page 64 et entre temps j'étais jusqu'à la page 144 et la fin, parce que j'ai tout écrit en fait en 12 jours en faisant que ça, parce que j'aime bien être un peu tendu dans ma manière d'écrire. Si j'écris de manière trop souple dans un récit comme ça, qui était assez complexe à mettre en scène dans la mesure où il y a à peu près une dizaine de personnages principaux avec des structures décalées au niveau de la chronologie, il y a des flashbacks, je me perds un petit peu. Donc j'étais vraiment très très concentré sur le récit. Et à la page 64, quand il me dit « bah voilà, j'ai lu, c'est super bien », je lui ai dit « bon, bah j'ai fini en fait, est-ce que tu veux lire jusqu'au bout ?» Il me dit « oh non, quand même, ça m'embête ». Je lui dis « écoute, ça me gêne de le dire, mais... je trouve que c'est vachement bien ce que j'ai écrit et ça m'aiderait que tu me dises si c'est bon quoi jusqu'au bout. » Il le lit et puis il est super content parce que ça allait vraiment dans la direction qu'il souhaitait, même une autre direction qui était invisible, et invisible aussi pour moi quand j'ai commencé à écrire, parce que j'écris beaucoup en improvisation. Et il me dit « bon bah écoute, c'est super, et de toute façon je vais m'y mettre dans 2 ou 3 mois quand j'aurai le temps, et d'ici là je pense que j'aurai tout oublié, et puis après le temps que j'écrive, que je dessine tout, ça va durer au moins 10 mois Et je vais redécouvrir l'histoire au fur et à mesure, et c'est effectivement ce qui s'est passé.
Et qu'est-ce que ça veut dire en improvisation, que vous écrivez en improvisation ?
Ça veut dire que je suis quelqu'un de joueur. J'aime bien jouer, j'aime bien me surprendre, j'aime bien inventer des histoires, j'aime bien ne pas savoir où ça va. Ce qui est intéressant, c'est de créer des personnages, de créer des situations et de créer des rapports de personnages. Une fois qu'on a des bons rapports de personnages, des situations un petit peu tendues, il suffit juste de tirer le fil. Et à partir de là, je découvre le sujet, je découvre ce qui se passe. J'ai dit que j'ai tout écrit en 12 jours, ce qui est vrai, mais en 12 jours, il se passe beaucoup de choses. C'est-à-dire que j'ai dormi 12 fois et j'ai l'impression que le cerveau est une machine très très spéciale, ce qui fait que au réveil, à chaque fois, j'avais de nouvelles idées. Et je reprenais le récit, j'avais des choses assez surprenantes qui me seraient pas venues si j'avais bossé autrement. J'ai plein de copains qui sont scénaristes, qui ne travaillent jamais comme ça. Ils ont besoin de structurer un récit, de faire un crescendo. Ils vont lire plein de bouquins pour savoir comment écrire un scénario, etc. Ce qui est tout à fait louable et possible. Mais moi, c'est pas du tout ma façon de travailler. J'ai besoin d'être vraiment dans un jeu et de découvrir l'histoire au fur et à mesure. Mais j'ai tellement lu, j'ai tellement été au cinéma, j'ai tellement vu de séries télé, etc., etc., que malgré tout, je pense qu'il y a une espèce de structure inconsciente qui se crée lors de mon écriture, qui fait que je sais que je vais à peu près retomber sur mes pattes au bout d'un moment, parce que je vais distiller des petites informations, des petites pierres, des petits cailloux, qui me seront peut-être utiles plus tard. Parfois je les utilise, parfois je les utilise pas.
Mais ce qui est surprenant dans ce que vous me dites, c'est que finalement, l'aspect graphique, au moment où vous êtes en train d'écrire, donc dans ces 12 jours de scénario, n'intervient pas du tout. C'est-à-dire que vous n'y pensez pas, en fait. C'est vraiment le récit, les personnages, et pas du tout leur mise en place, le gaufrier, le rythme du récit purement sur la page.
Bah, dans la mesure où j'écris et je dessine en même temps, donc je dessine des cases, je dessine des bonhommes, parfois je dis juste, j'écris dans la case, là le personnage va vers la ville, ou là c'est un tel, là c'est un tel, parfois je dis là c'est une seule grande image, et je sais juste que toutes les 16 pages, mon récit doit s'arrêter et reprendre sur un nouveau personnage. Mais si j'ai absolument besoin de dessiner la rythmique des cases pour avoir une idée de comment fonctionne le récit. J'ai déjà vu des scénarios de scénaristes, pardon, qui sont très très complexes à mettre en œuvre. Par exemple, Jacques Loeb, un grand scénariste des années 60-70, il y avait le festival de Lausanne il y a 2-3 ans qui avait ressorti un vieux scénario jamais dessiné de Loeb qui devait se faire en 5 pages. Et il avait demandé à plein de dessinateurs de dessiner à leur façon chacun ce scénario-là. Donc j'ai dit pourquoi pas, je suis prêt à lire le scénario, et le scénario de Jacques Loeb était dactylographié à l'ancienne, donc ça datait des années 70, donc forcément c'était des machines à écrire. Et c'était écrit comme un scénario, avec case 1, intérieur, jour, les personnages font ceci, cela, avant-plan ceci, cela, arrière-plan, décor d'un marché, je ne sais quoi. Et je me suis dit, là, je suis super engoncé, je pourrais jamais faire ça. Déjà que, généralement, je ne travaille pas avec un scénariste, mais je travaille plutôt avec des dessinateurs. Comme je ne me suis jamais senti dessinateur moi-même, j'ai préféré toujours travailler avec des gens qui dessinaient mieux que moi, plutôt que des scénaristes qui veulent travailler avec moi en tant que dessinateur. Donc je me suis retrouvé dans une situation très bancale avec ce scénario-là, en me disant, non, là, c'est trop complexe, je ne peux pas faire ça. Et je me suis remis en perspective avec moi ce que j'offre au dessinateur avec qui je travaille, c'est-à-dire, ça a l'air assez rigide aussi, le fait qu'il y ait des cases un peu dessinées, mais c'est vraiment très très sommaire, et à chaque fois je leur dis, écoutez, là j'ai fait un avant-plan, un arrière-plan, vite fait, mais si vous voulez faire l'inverse, si vous voulez faire un plan large ou un plan très serré, faites-le, moi ça m'aide juste à écrire. Après, appropriez-vous le récit, c'est votre récit, c'est vous le metteur en scène, et moi j'ai juste écrit en bande dessinée parce que c'est ma manière naturelle de raconter des histoires, écrire en bande dessinée. J'ai déjà essayé d'écrire des romans ou des choses comme ça au tout début de ma carrière. Quand j'étais jeune, j'écrivais des mots croisés, je faisais des nouvelles, etc. Mais j'ai bien compris que j'avais pas du tout de talent littéraire à ce niveau-là et qu'il fallait que je cherche autre chose. Et quand je suis tombé sur la bande dessinée et sur le fait qu'on n'était pas obligé de bien dessiner pour faire de la bande dessinée, mais qu'il fallait être intéressant et attraper le lecteur à la première case, je me suis dit, là, il y a peut-être quelque chose à faire et peut-être que ce domaine est fait pour moi.
Lewis Trondheim, du talent littéraire, vous en avez, puisque revenons à Castelmore. Donc, c'est à la fois un conte merveilleux, un conte qui commence par une sorcière qui mange les yeux des lapins, dont vous nous dites d'ailleurs que personne ne mange les yeux des lapins, ce qui est très vrai. Et le narrateur, en tout cas, s'il y a un narrateur, si on peut parler de narrateur en bande dessinée, grande question, en tout cas le personnage qui nous introduit un peu dans cette histoire, c'est un mythographe nommé Zéphirin Loreau, qui recueille des contes à défaut de retrouver un roi que tout le monde croit mort.
Oui, le mythographe, ça existe depuis longtemps. Les frères Grimm étaient mythographes, ils ont recueilli en Allemagne tous les contes anciens de leur culture. Donc ça, c'était un point intéressant. J'ai vu le film Les frères Grimm, qui est plutôt une horreur. Je me suis dit, c'est dommage de laisser tomber cette idée de mythographe, parce que c'est assez joli comme idée de vouloir recueillir des histoires orales qui risquent de disparaître si on ne fait rien. Et après, j'essaye pas de faire mon malin quand je fais des histoires. Je sais que j'ai un petit travers, c'est de tordre des récits pour en faire un petit peu autre chose. Mais là, je voulais vraiment faire un récit à l'ancienne, un récit de Moyen-Âge, un récit de conte de fées, mais malgré tout, en essayant de pas refaire ce qui a déjà été fait. Par exemple, vous parliez de la sorcière au début. En fait, ce qui m'a amusé comme introduction, c'est de faire une sorcière qui avait peur d'un enfant. On la voit dans la forêt, qui tue un lapin, qui met les yeux de côté dans une poche, et puis il y a un enfant qui est loin, elle se retourne, elle le voit, elle essaie de s'éloigner de lui, elle se retourne, l'enfant n'a pas bougé, mais il est encore beaucoup plus près, on a l'impression qu'il est immobile, là elle commence à s'enfuir un peu plus, elle se retourne, l'enfant est toujours immobile, mais encore plus près, et elle a la trouille, et je me suis dit, là ça c'est une bonne idée d'histoire, je sais pas pourquoi il y a cet enfant-là qui est là, je sais pas pourquoi elle a peur, mais allons-y, on va trouver.
D'ailleurs, Castelmore est un conte assez effrayant, cruel, hein, peuplé de monstres dont on va voir qu'ils ne sont pas tous forcément nécessairement effrayants, mais néanmoins qui portent en eux une violence cachée. Hein. Le premier personnage, en tout cas féminin, que l'on voit après la sorcière et le mythographe, c'est une jeune femme qui dit, qui entend des voix intérieures, hein, qui est habitée par la violence. Il y a comme ça tout un ensemble de personnages de contes, mais de contes extrêmement violents qui se dessinent sous nos yeux.
C'est des contes violents par rapport à nous en 2020, où on a l'habitude d'avoir une littérature jeunesse qui est très édulcorée, qui est très mièvre, mais les contes anciens étaient des contes horribles. Les enfants se faisaient tuer, manger, découper, et les adultes aussi. Hein.
Oui, c'est d'ailleurs le cas, là, il y a pas mal de découpages. Ce roi Eric, donc, a disparu depuis 20 ans après avoir cherché à avoir un enfant. Et on a l'impression que tout tourne dans Castelmore, justement, autour du thème de l'enfantement, de la transmission. Est-ce que c'était cet aspect traditionnel de ce thème qui vous a attiré, Lewis Trondheim?
Il y a ce thème-là, mais il y a aussi le thème de la dualité. Parce que si on regarde bien, on comprend que Eric, il a une espèce de double personnalité parce qu'il boit, on ne sait pas s'il est alcoolique ou quoi, mais il y a quelque chose derrière qui est caché, et je ne vais pas non plus divulgâcher l'intrigue, mais tous les personnages, vous parliez de la jeune fille, il y a quelqu'un qui lui parle dans sa tête pour tuer les gens qui lui adressent la parole, il y a un personnage qui a deux têtes, donc qui s'appelle Camille, et qui a une tête masculine et féminine, et qui est une espèce de monstre de foire. Et donc il y a cette espèce de dualité, et je pense que c'est une dualité qu'on a tous en nous, c'est-à-dire qu'on est toujours dans nos pensées, on est toujours en train de dire qui sommes-nous, est-ce qu'on est sûr d'être la bonne personne. Enfin, moi en tout cas, en tant qu'auteur, en tant qu'artiste, j'ai vraiment toujours des problèmes de conscience en me disant et si je changeais de tout au tout, et si je tuais quelqu'un demain, je serais une personne différente de celle que j'étais avant. Si j'arrête de dessiner, si j'arrête d'écrire, si j'arrête d'être artiste, est-ce que ça veut dire que je serais plus moi-même? Je dis pas que c'est ça la thématique dans Castelmore, mais j'aime bien en tout cas utiliser des failles intérieures pour les mettre dans mes récits, parce que j'ai l'impression que s'il y a toujours quelque chose qui va en ressortir, qui sera peut-être intéressant, qu'il y aura peut-être une profondeur là-dessus. J'ai rien non plus contre les récits qui sont très gratuits et très bêtes et très stupides, mais j'ai l'impression que quand on est jeune, on peut faire des récits très stupides, et plus on vieillit, plus on a tendance à s'assagir là-dessus et à mettre plus de profondeur, mais peut-être à tort aussi.
Plus de profondeur, est-ce que aussi pour vous, il y a des passerelles avec notre monde d'aujourd'hui? il y a une façon de lire Castelmore, en tout cas, qui serait plus contemporaine que juste un conte médiéval.
Ça, c'est la grande question, je pense, de beaucoup d'auteurs, c'est de dire qu'est-ce qu'on met dans notre récit qui nous parle de notre quotidien, qui nous parle de nous, et comment ne pas faire rentrer ça au chausse-pied, comment faire en sorte que ce soit pas frontal, comment faire en sorte que ce soit pas prémâché non plus, que le lecteur puisse lire un récit, y prenne du plaisir et trouve par lui-même des solutions. Mais pas forcément, mais je pense pas que ce soit bien que ce soit des solutions qui étaient prévues par l'auteur lui-même, mais ça peut être des solutions qui viennent de lui lecteur, et par rapport à lui son vécu. Et donc plus on va être souple, flou et moins directif, plus on va pouvoir parler à plein d'inconscients différents, je pense.
Lewis Strandheim, dans votre actualité, il y a aussi la parution d'un album de cette œuvre collective assez extraordinaire qu'est la série Donjon, que vous animez depuis plus de 20 ans maintenant avec Johan Sfar. La série, ou les séries, en tout une cinquantaine d'albums, si je ne me trompe pas, dans plusieurs catégories. Il y a quelque chose de l'ordre de la contrainte, de la répétition. Est-ce que vous le voyez comme une forme de variation ?
De variation, je ne sais pas. La contrainte, j'ai toujours travaillé sous la contrainte. Trop de liberté tue la liberté. Donc dans plein d'albums que j'ai pu faire, il y a toujours une contrainte. Là, la contrainte, elle est plutôt agréable parce que je travaille avec Johan Sfar et on est vraiment co-scénariste sur tous les albums. C'est-à-dire qu'on se met dans un coin de bureau si on est sur Paris, ou alors on passe des vacances ensemble parce que comme on n'aime pas les vacances, eh ben autant travailler ensemble. Et on prend deux paquets de pages, ou trois paquets de pages, ou parfois quatre paquets de pages. Donc ça veut dire qu'on va faire deux, trois ou quatre albums en même temps. On va dessiner vite fait le scénario page à page, case à case. On essaye de faire marrer l'autre, on essaye de surprendre l'autre. Puis quand on ne sait plus où aller, on passe le paquet de feuilles à l'autre en disant voilà, ben là, je ne sais pas, vas-y, trouve quelque chose. Et puis c'est vraiment un jeu du tac au tac en fait avec Johan. Donc la contrainte, elle est là. La contrainte, elle est de faire rire et surprendre le copain. Et après, on se retrouve avec une montagne narrative qui nous fait très très peur, enfin moi qui me fait très très peur, parce que 50 albums, j'ai jamais fait 50 albums dans ma vie d'une seule série, et avec des narrations très complexes, parce que il y a à peu près 5 trames différentes, chronologiques, qui se passent très très loin dans l'avenir, très très loin dans le présent, et on peut pas se souvenir de tout ce qui s'est passé, de toutes les relations de personnages, parce que comme on écrit un album en 3 jours, on n'a aucun souvenir de ce qu'on a pu écrire il y a 18 ans, 15 ans, 13 ans. Et là, la contrainte, elle est assez forte parce que nos fans sont ultra rigides. Ils vont analyser tous les albums qu'on a fait, point à point, case à case, bulle à bulle. Et puis après, dès qu'il y en a un qui sort, ils vont nous dire « Ah, mais là, c'est pas possible parce que vous aviez dit il y a 18 ans que le personnage, il faisait ceci ou cela. » Et là, on est obligé de leur dire « Oui, mais c'est parce que vous savez pas encore ce qui se passe dans l'album d'après. » Et en fait, on est obligé d'inventer quelque chose dans l'album d'après pour justifier nos erreurs des albums précédents.
Et Donjon, c'est aussi la possibilité de rassembler une espèce de dream team du dessin ou de la bande dessinée au fur et à mesure, hein, de ramener des nouveaux dessinateurs dans le projet. Est-ce que c'est ça qui nourrit aussi un peu Donjon, l'apport de sang frais d'un dessin neuf?
C'est en partie ça. C'est-à-dire que Johan et moi n'aurait pas pu dessiner nous-mêmes 50 albums. Moi, j'en ai dessiné 4 au début de la série. Johan en a dessiné 3. Et après, on s'est dit, on a fait le tour, nous, au niveau du dessin, de ce qu'on voulait faire. On va se répéter si on continue comme ça. Peut-être ce serait bien de demander à d'autres personnes et des gens talentueux. Et c'est vrai que quand on se retrouve avec des gens comme Christophe Blin, comme Blutch, comme Carlos Nin et tous les autres, en fait, ça nous apporte beaucoup plus de richesse graphique, même si pour eux, je pense que c'est pas super facile, parce que ils se retrouvent à faire du dessin animalier, parce qu'on n'a pas dit que Donjon, c'est animalier, parce que c'est moi qui ai commencé à dessiner, et comme je dessine toujours des animaux, des canards, des chiens, des chats, etc., donc ils se retrouvent tous à devoir dessiner animalier, alors qu'ils ont quasiment jamais fait ça, mais c'est ça aussi qui donne un lien à l'ensemble. C'est-à-dire que plutôt que d'être dans le même style graphique que l'auteur originel, comme ce que font ceux qui reprennent Blake et Mortimer, où ils dessinent tous comme Jacobs, Là, ils sont pas obligés de dessiner comme moi. Par contre, le fait qu'ils dessinent animalier, ben, quand il y a un chat qui est dessiné à leur manière, ben, on reconnaît que c'est vraiment le chat du tel personnage, ou le chien, ou le crocodile, ou n'importe quoi.
Oui, c'est aussi une raison pour laquelle vous ne pouviez pas, évidemment, dessiner vous-même Castelmore, par exemple, hein, puisque là, il y a des personnages qui ne sont pas des animaux et que les quelques animaux qu'on y voit, dont les lapins, se font manger les yeux.
Oui, mais moi, en fait, j'ai toujours voulu être scénariste, j'ai toujours voulu raconter des histoires, et quand j'ai découvert la bande dessinée, ben, j'étais très content. Mais après, je me suis dit, avec mon style de dessin qui est minimaliste et animalier, je pourrais pas tout raconter, je pourrais pas aller explorer d'autres formes narratives qui m'intéresseraient. Et pour ça, ben, le fait de se mettre avec des auteurs qui vont être semi-réalistes ou réalistes, ben, ça me permet d'écrire autre chose, parce qu'il n'y a rien de pire que de faire la même chose toute sa vie. Si je devais faire du Lapineau tout le temps, ça me scléroserait. Donc j'ai besoin d'essayer d'autres choses, d'explorer des nouveaux territoires, pour après revenir à faire du Lapineau et le faire avec plaisir. Il n'y a rien de pire que d'être obligé de faire quelque chose qu'on aime faire.
Il n'y a rien de pire que de faire quelque chose qu'on aime faire. Merci beaucoup, un immense merci Lewis Strandheim de nous avoir rendu visite aujourd'hui.
Merci Mathias.
Castelmore de Lewis Strandheim et Alfred est paru aux éditions Delcourt. Nous avons tous la sensation de connaître Marguerite Duras et surtout ce récit si populaire, L'Amant, qui valut à la dame de la rue Saint-Benoît le prix Goncourt en 1984. Pourtant, il suffit d'une magnifique lecture, simple et profonde à la fois, comme celle de Juliette Binoche dans ce livre audio qui paraît aux éditions Écoutez Lire, pour que nous redécouvrions l'immense beauté de ce texte, tout en volute, en redite, en cercle, en imprécation sourde, ici contre la famille de la narratrice.
Je lui expliquerai lorsque nous nous retrouverons à la garçonnière. Je lui dis que cette violence de mon frère aîné est froide, insultante. Elle accompagne tout ce qui nous arrive, tout ce qui vient à nous. Son premier mouvement, c'est de tuer, de rayer de la vie, de disposer de la vie, de mépriser, de chasser, de faire souffrir. Je lui dis de ne pas avoir peur, qu'il ne risque rien, lui. Parce que la seule personne que craint le frère aîné, devant qui curieusement il s'intimide, c'est moi. Jamais bonjour, bonsoir, bonne année, jamais merci, jamais parler, jamais besoin de parler. Tout reste muet, loin. C'est une famille en pierre, pétrifiée dans une épaisseur sans accès aucun. Chaque jour, nous essayons de nous tuer, de tuer. Non seulement on ne se parle pas, mais on ne se regarde pas. Du moment qu'on est vu, on ne peut pas regarder. Regarder, c'est avoir un mouvement de curiosité vers, envers, c'est déchoir. Aucune personne regardée ne vaut le regard sur elle. Il est toujours déshonorant. Le mot « conversation » est banni. Je crois que c'est celui qui dit ici le mieux la honte et l'orgueil. Toute communauté, qu'elle soit familiale ou autre, nous est haïssable, dégradante. Nous sommes ensemble dans une honte de principe d'avoir à vivre la vie. C'est là que nous sommes au plus profond de notre histoire commune, celle d'être tous les trois des enfants de cette personne de bonne foi, notre mère que la société a assassinée. Nous sommes du côté de cette société qui a réduit ma mère au désespoir. À cause de ce qu'on a fait à notre mère si aimable, si confiante, nous haïssons la vie. Nous nous haïssons.
France Culture, la salle des machines, Mathias Hénard.
Jean-Richard, en pleine activité au Palais des Sports.
Ah oui, pleine activité, vous pouvez le dire.
C'est une grande première, je crois, pour vous, parce que c'est une rentrée de votre cirque.
Bah oui, c'est vrai, le cirque Jean-Richard était disparu de la circulation depuis 59. Alors c'est une grande rentrée, oui. Des nouveaux débuts, On a essayé de monter dans ce cadre merveilleux du Palais des Sports un spectacle qui sorte un peu de l'ordinaire, quoi, un spectacle, on dirait, à suspense, à base d'animaux bien sûr, et puis beaucoup de numéros aériens, avec un désir de meubler ce grand cubage d'air qui représente une salle comme le Palais des Sports, qui n'est pas un vrai cirque, et qu'il faut employer en fonction de ce qu'il est, c'est-à-dire une merveilleuse salle, mais qui nous permet d'ailleurs de faire des attractions que la place ne permettrait pas dans un autre cirque, tout en ne tombant pas dans la formule américaine que les Français n'aiment pas, et ils ont raison.
Alors, j'ai vu des superbes panthères.
Oui, les 8 panthères, présentées par Philippe Grus.
Et les lions, les lions, qui sont des lions d'Abyssinie,
oui,
qui ont été présentés cet après-midi, disons-le, par Jean-Richard.
Oui, je les ai présentés parce que c'est un dompteur qui ne les connaît pas bien encore, qui les reprend. Puis comme vous avez vu vous-même, ils sont encore un peu perdus parce que c'est des lions que j'ai à Ermenonville, qui ne sont pas habitués ni à la musique, ni à tout ça. On a l'ambiance, les change terriblement. Hein? Mais ça ira. Et alors au-dessus de ces lions, on a mis un jeune trapéziste de talent, là, que vous avez vu, Silky, qui fait des équilibres très dangereux.
Très angoissant.
Alors il fait ça au-dessus des lions, ce qui crée ce petit pincement de cœur qui, je crois, est nécessaire à tout spectacle de cirque qui se respecte.
Soyez la bienvenue, Elisa Choix du Sapin. Et merci de nous faire visiter votre salle des machines. Est-ce que vous étiez une grande amatrice de cirque avant d'écrire Vladivostok Circus ? Le cirque comme celui dont parle Jean Richard au micro de France Inter à la Noël 1964, le cirque avec les lions, les éléphants, les trapézistes, les écuyères, les clowns.
Alors en fait, pas du tout, j'ai jamais supporté le fait de voir des animaux employés comme ça au spectacle ou dans des zoos, ça a toujours été quelque chose d'assez douloureux pour moi. Par contre, je suis fascinée par tout ce qui a un rapport avec le travail du corps, l'expression et peut-être les formes d'absence de vie là où il devrait peut-être y en avoir, d'où le fait que dans le cirque que je mets en scène, les animaux sont, disons, présents en creux.
Elisa Choix, vous êtes romancière, autrice de 3 romans parus aux éditions Zoé, dont le premier, Hiver à Sokcho, vous avez valu de recevoir le prix Robert Balzer de Bienne. Il y a un point commun entre les 3 titres de vos romans, c'est qu'ils contiennent tous un nom propre exotique, avec un ou plusieurs O. Sokcho pour le premier, Pachinko pour le second et Vladivostok pour le troisième, dont il sera question aujourd'hui, Vladivostok Circus. Et si j'ai tenu à ce que vous nous ouvriez votre salle des machines, Elisa Choix, c'est parce que les romans de cirque sont assez rares à ma connaissance de nos jours. Le cirque semble un objet plus cinématographique que littéraire. Depuis les films de Todd Browning, L'Inconnu ou La Monstrueuse Parade, jusqu'à Sous le plus grand chapiteau du monde de Cécile B2000. Ou alors en littérature, peut-être un peu oubliée dans la littérature populaire de la fin du 19e siècle. Est-ce que vous y avez pensé au moment de vous lancer dans l'écriture de Vladivostok Circus ?
Mais je crois que vous avez raison. Et d'ailleurs, j'étais tellement consciente de ça que j'avais un peu peur de l'idée de faire un roman sur le cirque. Parce que c'était pas mon intention première, en fait. Je crois que le cirque, quand on prononce ce mot-là, ça véhicule tellement d'images d'Épinal que, en termes de littérature, on est vite dans des écueils que je voulais à tout prix éviter. Et heureusement, j'ai, en fin de compte, pas dû trop me casser la tête parce que, bon, déjà, le choix du sujet, ça a été le fruit d'une rencontre complètement hasardeuse à Moscou en 2018 quand je suis partie de Porrentruy, donc dans le Jura suisse, jusqu'à Tokyo en train et en bateau, donc j'ai traversé toute la Russie sur plusieurs semaines et à Moscou j'ai rencontré un trio à la barre russe et c'est vraiment le fait d'observer les entraînements et le lien entre ces 3 personnes qui m'a inspiré cette histoire et bon, il se trouve que ce sont des artistes de cirque, donc ça s'est passé après dans un cirque, ce que j'ai développé, mais pour moi c'est vraiment la rencontre humaine qui a initié tout l'univers que j'ai ensuite décrit. Et puis d'ailleurs, le cirque de Vladivostok que je mets en scène, en fait, c'est plutôt un copier-coller du cirque national de Budapest, où j'ai passé quelques temps l'été après cette première rencontre, pour m'immerger dans ce monde du cirque un peu au quotidien, que au fond, justement, je ne connais pas du tout autrement qu'en tant que spectatrice lambda qui va de temps en temps au cirque, et plutôt d'ailleurs un cirque contemporain. Et le cirque de Budapest, tout comme celui de Vladivostok ou ceux que j'ai eu l'occasion de voir un peu en Russie ou en Europe de l'Est, ou alors plutôt et plus souvent en Extrême-Orient, Ce sont, c'est vrai, pour le coup, des cirques plus traditionnels où parfois il peut y avoir encore des animaux. Et ça, c'était vraiment quelque chose qui m'était très étranger. Et je pense que quand j'écris, j'ai besoin de toute façon d'avoir un rapport avec la question de l'étrangeté ou d'une forme de décalage. Et du coup, bah, tous les ingrédients étaient réunis en fait pour que ça m'inspire énormément.
D'ailleurs, la narratrice Nathalie, elle-même admet dès son arrivée au Vladivostok Circus qu'elle connaît bien mieux le monde du théâtre et du cinéma que celui du cirque. Mais alors pourquoi Vladivostok ? Pourquoi pas justement le cirque à Moscou, à lieu de cette rencontre, ou à Budapest ?
Je crois que là, on arrive à ce que vous disiez avant sur cette question des sonorités de mes titres qui paraissent toujours lointaines, en fait. Il y a quelque chose qui réunit tout ça, c'est la question de la ville portuaire. Mon premier roman se passait à Sokcho, qui est une ville portuaire à la frontière des deux Corées. Le deuxième se passait à Tokyo, qui est un archipel qui pourrait être du coup à plein de frontières différentes. Et Vladivostok, qui est en fait aussi une ville portuaire. Et au départ, c'était pas du tout conscient. Mais pour moi qui suis eurasienne, donc en fait franco-coréenne, mais qui ai grandi entre la France, la Suisse, la Corée du Sud et qui est passée les 8 dernières années beaucoup de temps au Japon, j'ai toujours été très marquée par les villes qui sont à la fois des villes de départ et d'arrivée, avec une espèce d'horizon qui est à la fois bouché, mais du coup aussi porteur de tous les imaginaires possibles en fait. Parce qu'au fond, quand on est dans une ville portuaire face à l'océan, on voit à peu près la même chose où qu'on soit sur la planète, on voit une étendue d'eau en fait. Et au fond, si on se retourne, par contre, là on est face à une culture qui peut être radicalement différente d'une ville à l'autre. Et bah, pour moi qui ai commencé littéralement à écrire pour essayer de comprendre ce que ça pouvait être cette notion de frontière entre les cultures, entre les langues, entre les façons de penser, je crois que Vladivostok, elle m'a touchée d'une part pour ça. Peut-être aussi parce que pendant plusieurs semaines, je venais de traverser le continent eurasiatique. Et en tant qu'eurasienne, ça avait été très émouvant en fait de voir les physionomies changer petit à petit comme ça. Enfin, il y a vraiment un écho intime avec ma personne au-delà de voilà du travail que j'étais en train de mener au niveau de l'écriture. Et à la fois, quand je suis arrivée dans cette ville, vraiment au fin fond de la Russie, j'étais toujours dans le même pays. À la gare, on est à l'heure de Moscou, donc finalement j'avais l'impression d'être à la fois pas très loin de la Suisse d'où j'étais partie. Et en même temps, bah, la plupart des gens que je croisais, c'était au-delà des Russes, bah, les touristes chinois, coréens ou japonais, donc des pays que je connais quand même assez bien aussi, pour les porter en moi, mais à Vladivostok, qui était pour le coup une ville et un pays que je découvrais pour la première fois. Donc je crois qu'il y avait vraiment tout un mélange comme ça de... Bah, encore une fois, j'y reviens, mais à la fois d'inconfort, d'étrangeté et en même temps de grande familiarité qui résonnait et... qui faisait écho aussi aux personnages que je mets en scène, qui ont eux-mêmes toujours pas mal de difficultés, on va dire, à communiquer, qui semblent eux-mêmes toujours sur le fil, à chercher le meilleur moyen d'être, non seulement au monde, mais enfin surtout, je dirais, au sein d'un groupe, ou alors qui ont voilà, toujours une espèce de malaise fondamental, même vis-à-vis d'eux-mêmes.
Donc Nathalie, la narratrice, parvient à Vladivostok, au Vladivostok Circus, où elle rencontre un trio, Anna, Nino et Anton, qui sont des acrobates à la barre russe. Qu'est-ce que c'est que la barre russe ?
La barre russe, c'est une discipline traditionnelle des arts du cirque en Russie, qui a été créée dans les années 50. Et elle consiste de manière très concrète en trois perches de sauts en hauteur, assemblées les unes contre les autres, avec voilà, une espèce de tissu comme ça qui les entoure, et ça en fait une barre. Et ce qui est particulier, c'est que cette barre est portée par deux personnes. Jusqu'à maintenant, tout ce que j'ai vu, c'était deux porteurs hommes. Enfin, il faut quand même vraiment beaucoup de force pour supporter le poids de l'acrobate qui, lui, effectue toute une série de sauts périlleux sur cette barre et jusqu'à des 7-8 mètres de hauteur. C'est une des disciplines les plus dangereuses dans le monde du cirque parce qu'on ne peut pas être assuré. Et surtout, et c'est là que... Justement, cet art m'a fascinée. Une des choses les plus importantes, c'est la confiance absolue qui doit se nouer entre les membres du trio, jusqu'à ce qu'ils ne forment finalement plus qu'une espèce d'organisme uni, et qui communique vraiment sans parole, sans un regard, uniquement à travers les perceptions corporelles qui passent à travers cet objet, en fait. Et on se rend pas du tout compte de ça quand on le voit de l'extérieur, mais en fait, bah voilà, pour en avoir parlé avec les porteurs que j'ai pu rencontrer, j'ai compris qu'il leur avait fallu plusieurs années pour simplement déjà commencer à comprendre un peu ce qui se passait au bout de la barre chez l'autre. Et en plus de ça, bah, j'ai eu la chance de rencontrer littéralement les champions du monde en ce moment de barre russe. Donc si même pour eux, il faut comme ça plusieurs années à peaufiner un geste, et d'ailleurs on pourrait dire que leur art se résume à ça, en fait, chercher vraiment la perfection dans pratiquement une seule action, qui est de soutenir l'acrobate, je crois que ça fait aussi écho, évidemment, de manière beaucoup moins dangereuse, mais au questionnement que je me pose moi dans l'écriture, en fait. Pourquoi se lancer comme ça pendant des mois dans un texte où, au final, je sais pas du tout où je vais quand je le commence, et voilà, de manière assez solitaire, alors que parfois j'aimerais bien faire autre chose, et en même temps, il y a une espèce de force mystérieuse qui nous pousse à construire tout un imaginaire, et qui parfois est presque plus important que la vraie vie, au moment, en tout cas, de la plongée dans le texte.
Et donc, de quelle façon avez-vous travaillé? Qu'est-ce qui s'est passé après cette rencontre, donc à Moscou, avec la barre russe et ses acrobates? Comment est-ce que vous avez construit le livre? Il y a eu une longue partie d'enquête, de voyage, de travail sur les personnages?
Il y a eu beaucoup de travail, bien sûr. Disons, tout de suite après la rencontre, j'ai été vraiment transportée par cette envie comme ça d'écrire une histoire. Peut-être pour la première fois, j'ai eu une envie d'écrire une histoire qui soit belle, alors que avant j'étais peut-être plus portée par des sentiments un peu plus de colère ou quelque chose d'un peu plus négatif. Et là, je me suis dit, j'ai envie de rendre une forme d'hommage, en fait, à ce trio. Et j'ai gribouillé un premier jet d'un roman qui n'avait rien à voir avec ce qui est devenu Vladivostok Circus, qui était peut-être plus proche aussi, d'ailleurs, du cirque traditionnel et tout ça. Et je me suis rendu compte au fil de l'écriture que j'avais commencé dans le Transsibérien. Que en fait, c'était pas ça que je voulais raconter, ou en tout cas, assez vite, j'ai été bloquée. Et je crois que c'est parce que, comme toujours dans mon rapport à l'écriture et ce que je fais, la question du temps est très importante. Et en fait, j'écris vraiment lentement. J'ai beaucoup de mal sur le moment à faire la part des choses, à trier les éléments importants entre ce que je vois, ce que je vis, ce que je perçois, et ce qui ensuite va devenir significatif pour construire un roman. Et pour faire ce travail de décantation, chez moi, il n'y a vraiment que le temps qui permet de retrouver un peu ce qui, au fond, aura été important pour moi dans une rencontre. Et c'est pour ça que, au retour du voyage, j'ai toujours continué à penser un peu à ce texte, mais c'était peut-être une chance. J'ai été complètement empêchée d'y travailler par la promotion de mon deuxième roman, en 2018, qui venait de paraître. Et du coup, pendant quasiment une année, j'y ai pensé qu'en creux, au fond, et avec cette impression qu'un élastique se tendait en moi, avec l'impression qu'il fallait que vraiment là, de plus en plus, bientôt, il faut que j'en mette à écrire, quoi. J'ai vraiment besoin de cette tension-là. Si j'ai trop de temps ou trop de confort, c'est, au fond, je crois que je suis pas efficace, en fait. Et entre-temps, pendant cette période-là, je m'étais documentée énormément, de manière purement intellectuelle, en fait, à lire beaucoup de choses. Je suis devenue incollable théoriquement sur la barre russe, à travers tout ce qui a aussi été écrit par toutes ces fédérations des arts du cirque, des choses comme ça. Mais justement, je me sentais trop éloignée, en fait, de quelque chose de physique. Moi, je crois que j'écris avant tout à travers les perceptions sensorielles, beaucoup plus que par une idée ou une notion intellectuelle. Et c'est pour ça que, en fait, j'ai repris contact avec le trio que j'avais rencontré à Moscou pour savoir un peu ce qu'ils faisaient, si c'était possible que je les retrouve et que je m'immerge un peu dans leur quotidien. Et il s'est trouvé qu'ils étaient en résidence au Cirque National de Budapest tout un été pour le spectacle d'été. Quelques jours après, j'ai pris le train et je les ai rejoints quelques semaines où là, j'ai vraiment été tous les jours au cirque, à travailler avec eux, à expérimenter un peu physiquement ce que pouvait être une barre russe. Cette question de l'équilibre aussi, que l'acrobate doit complètement remettre au porteur. Et en ce sens-là, c'est aussi une chose que je trouve assez incroyable dans la métaphore de la barre russe par rapport au lien humain que j'avais envie de décrire. C'est que c'est un peu comme... comment dire ça? En fait, l'acrobate, la seule chose qu'il a à faire, c'est de rester droit, mais il ne doit pas du tout chercher à s'équilibrer lui-même. S'il commence à s'équilibrer ou à chercher lui-même à s'équilibrer, en fait, c'est là que ça devient dangereux parce que les porteurs ne peuvent plus faire leur travail et tous les repères sont brouillés. Et du coup, ce qui est le plus compliqué, mais même pour un acrobate professionnel, c'est de faire confiance aux porteurs, en fait. Et par contre, à partir du moment où on a compris le truc, c'est un peu comme quand on apprend à faire du vélo. Une fois que le corps a intégré cette histoire d'équilibre sur deux roues, comme ça, on ne peut plus désapprendre, en fait. Et du coup, je crois que pour la première fois de ma vie, j'ai redécouvert une espèce de nouveau paradigme dans les sensorialités du corps dans l'espace. Et ça a été un des éléments qui m'a littéralement permis de terminer l'écriture les 6 derniers mois avant la remise du texte. Je crois que sans ça, sans cette découverte vraiment physique et du coup complètement personnelle de ce que c'était, j'aurais pas pu écrire cette histoire.
Puisque comme votre narratrice Nathalie, vous avez fait l'expérience donc vous-même de la barre russe, vous êtes montée sur la barre.
Alors je suis montée sur la barre, j'ai évidemment pas fait de saut périlleux, mais et là pour la petite confidence, la scène où Nathalie monte sur la barre dans le roman, c'est vraiment un copier-coller de ce que j'ai vécu personnellement. Ça a été tellement marquant pour moi cette scène que je pouvais pas faire autrement, je crois que de la décrire telle quelle. Et d'en faire presque un pivot autant parce que pour moi ça l'a été dans le processus d'écriture, mais ça le deviendra pour Nathalie dans le rôle que elle est là en tant que costumière dans le trio.
Vladivostok Circus, c'est surtout aussi un roman sur la douleur, la blessure, la peur aussi de l'accident qui est omniprésente, et puis sur les cicatrices que portent nos corps, sur les marques de le corps comme révélateur d'un passé et d'un état intérieur.
Absolument. Et là encore, je crois que si cette thématique est très présente, et en particulier dans ce roman-là, mais encore une fois, dans, je crois, à peu près tout ce que je fais, c'est parce que, paradoxalement, je crois que j'ai toujours très peur d'écrire et très peur de ne pas pouvoir exprimer les choses avec les mots, en fait. Comme si j'avais une forme de défiance par rapport au langage, au niveau linguistique en fait, et qui vient sans doute du fait que j'ai grandi entre plusieurs langues et avec toujours la notion que quand on passe d'une langue à l'autre, il y a forcément quelque chose qui se perd, que ce soit culturel, que ce soit au niveau de la structure de la langue et qui induit une autre forme de pensée, tout ça, et que en fait c'est pas parce qu'on partage la même langue que en fait on se comprend le mieux. Et par contre, il m'a toujours semblé que du coup, pour essayer de faire comprendre ce que mes personnages vivent, si je passais par la sensorialité du corps, disons, essayer d'exprimer les émotions ou les états d'âme parce que le corps en exprime, là, je ne pouvais pas être dans le faux, puisque, je ne sais pas comment dire ça, une expression corporelle peut difficilement être fausse. Je crois que c'est pour ça, en fait, que la plupart des corps que je décris sont douloureux ou alors porteurs d'un passé qu'on a envie de taire mais qui au fond revient quand même parce qu'on n'a pas le choix, on le porte sur soi. Enfin, je pense peut-être à Anton par exemple qui s'était cassé l'épaule et en ex-URSS ne voulait pas renoncer à sa performance et du coup même s'il était tout cassé il l'a quand même fait, mais après c'était trop tard pour se faire opérer donc il portait ce stigmate là. Ou alors de façon peut-être plus intime, la narratrice qui a du psoriasis, des espèces de croûtes sur la peau dont elle a bien sûr honte et qui deviendra petit à petit un élément qui en fait va la faire se rapprocher de Anna, l'autre jeune fille du groupe. Mais encore une fois, ça passe pas par les paroles, c'est vraiment parce que l'une prête sa crème corporelle à l'autre, ou alors elle commence à se masser, ou il y a quelque chose qui... Je crois que je me raccroche vraiment à tout ce qui est gestuel et peut-être visuel aussi avant tout. J'ai vraiment besoin de voir le film de ce que je suis en train d'écrire pour pouvoir l'écrire tout simplement, en fait.
D'ailleurs, les personnages passent leur temps à ne pas se parler, à ne pas se comprendre ou à mal s'interpréter. Il y a aussi tout ce jeu sur le langage et le silence. Et c'est finalement, dans le roman en tout cas, quand on ne parle pas, qu'on se comprend le mieux. Nathalie, par exemple, elle cache ses secrets, ce qu'elle ne dit pas, son rapport avec Thomas, tout ce qu'elle a laissé derrière elle. On a l'impression que tous ces personnages, finalement, cherchent à être le plus muet possible, ne pas se dévoiler, et leur seule communication passe par les costumes, les gestes, les sauts périlleux.
Et à la fois, c'est assez étonnant, parce que pour l'écriture de ce roman, J'avais envie justement de mettre en scène une narratrice qui soit au contraire pas forcément à l'aise, mais du coup dans son malaise très volubile en fait, qu'elle perde un peu le contrôle de ce qu'elle raconte, qu'elle se lance à tour et à travers dans des monologues. J'avais l'impression aussi que c'était le roman dans lequel les personnages se livrent le plus, que j'ai peut-être, ce sont peut-être les personnages que j'ai dû le plus aussi inventer, donc disons leur inventer un passé, un univers, et que j'ai un tout petit peu décrit du coup, ce qui n'était pas le cas avant. Et c'est vrai que à la fin de l'écriture, pour dire à quel point pour moi c'est pas une évidence en fait d'être comme ça loquace, j'avais l'impression d'avoir écrit un roman très bavard et où justement en fait il y avait plein de personnages, que c'était foisonnant. Et je crois que les premières critiques que j'ai reçues c'était une forme d'écriture justement du silence, beaucoup de retenue. Mais c'est pas une volonté propre en fait. Je crois que dans l'absolu j'aimerais pouvoir en dire plus. Ou je suis toujours surprise par ce qui émane de mes personnages, en fait. D'ailleurs, par exemple, mes narratrices, souvent, elles m'agacent complètement. Elles sont très, j'ai l'impression qu'elles sont timorées, qu'elles vont pas vraiment au bout des choses, qu'il leur arrive beaucoup de transformations intimes en lien avec ce qu'elles vivent au contact des autres, mais qu'elles-mêmes sont assez peu proactives, en fait. Et c'est vrai que ça, c'est vraiment bizarre, parce que moi-même, en tant qu'auteur de ces textes-là, c'est pas forcément ce que je souhaite, mais encore une fois, j'ai pas l'impression de maîtriser grand-chose, en fait, au moment où je suis en train d'écrire.
Et l'arrière-plan du roman, c'est la Russie. Et ce qui est aussi assez fascinant et très beau, c'est qu'on a un voyage, un morceau de voyage en transsibérien, en tout cas en train, mais à l'envers de celui qu'on fait d'habitude. D'habitude, pour nous, Européens de l'Ouest, le transsibérien, c'est aller depuis Moscou jusqu'à Vladivostok. Alors, dans votre roman, le petit morceau très réussi qu'on a de transsibérien qui fait assez rêver, c'est dans l'autre sens, c'est de Vladivostok à Ulan-Ude, donc d'est en ouest.
Oui, c'est vrai. Et pour l'anecdote, quand j'ai commencé la première version du texte, qui donc n'a plus rien à voir avec celle qu'on peut lire aujourd'hui, c'était l'histoire d'une jeune femme plus âgée qui part justement de l'Europe et qui va jusqu'à Vladivostok. Et puis en fait, je crois que c'était trop proche de ce que moi-même j'avais vécu. Et du coup, j'arrivais pas à trouver la distance nécessaire entre la narratrice que je suis en train d'inventer et moi. Et du coup, j'ai, dans un premier temps, laissé tomber complètement l'idée du train, qui est revenue après coup parce que je crois que j'aime tellement le train en général, en fait. Et je trouve que c'est une forme de lenteur et de presque de méditation qui en tout cas, moi me porte beaucoup dans l'écriture. J'ai vraiment écrit beaucoup dans des trains. Alors par contre, bon du coup il se trouve que le groupe est à Vladivostok et doit aller à Ulan-Ude, donc c'était logique qu'il y ait ce déplacement d'est en ouest. Mais au niveau plus symbolique, pour moi c'était aussi une question, je crois, qui m'importait, parce que j'ai commencé à écrire pour essayer, je crois, d'explorer toute cette part de moi d'Orient ou d'Extrême-Orient en Corée du Sud. Et en fin de compte, quand je suis... Donc aujourd'hui, j'ai la chance, en plus, d'être traduite en coréen notamment. Et quand je suis là-bas, par contre, on me considère toujours quand même comme une étrangère, en fait. Je suis l'écrivaine française. Ce qui n'est pas du tout mon sentiment intérieur. Et je crois que ce que j'aimais avec cette idée de, pour une fois, de faire un voyage inverse, en fait, entre l'extrême-orient russe vers l'Occident, c'est effectivement ce déplacement du regard, en fait, où on est dans le même pays, à la fois on est pratiquement à l'autre bout d'un continent, en même temps dans les gares, la notion des heures, elle est très politisée, enfin, donc du coup voilà, il y a l'heure de Moscou. En même temps, on est dans un bout du monde qui est très proche d'un autre bout du monde, mais qui met à la fois, disons que pour moi la Corée, c'est pas le bout du monde, puisque c'est aussi c'est une part de moi, tout simplement. J'ai ma famille maternelle qui est là-bas, j'y passe du temps chaque année. Mais en tant que auteur, c'est quand même une forme de bout du monde que j'ai l'impression de jamais réussir à cerner, en fait. Donc peut-être que ouais, ce petit bout de train, c'était un peu une façon pour moi de, encore une fois, d'essayer de faire un lien, en fait, entre toutes ces questions qui m'obsèdent sur l'idée de l'identité, de où est-on à la frontière de quoi, en fait.
Merci beaucoup Elisa Chat du Sapin pour ce roman du danger et du saut périlleux. Et un grand merci de nous avoir ouvert votre salle des machines.
Merci à vous.
Vladivostok Circus est paru aux éditions Zoé. Thank you. On se souvient qu'autrefois, dans les paquebots et les cargos, de magnifiques transmetteurs d'ordre en cuivre faisaient résonner les instructions de la passerelle jusqu'aux entrailles du navire. Comme chaque semaine en fin d'émission, un message parvient jusqu'à notre salle des machines pour partager une expérience d'écriture. Aujourd'hui, c'est Marius Geoffrey, dont le roman « Le fumoir » paraît aux éditions Anne Carrière.
J'ai 25 ans. Après une cuite, une violente crise de panique me paralyse. Mon frère, inquiet, décide de me conduire aux urgences de Sainte-Anne. Je pense y rester une nuit, mais deux psychiatres m'inventent une maladie rare, le syndrome de Korsakoff. Ils décident de m'interner à l'hôpital psychiatrique Henri E. En réalité, je suis dans un asile. Ici, on ne soigne pas les gens, et parler d'hôpital serait une insulte aux soignants qui en ce moment même sont au front pour sauver des vies. Je resterai 18 jours dans cet enfer. Un univers dur, clos, désespéré, où le personnel médical se moque des patients avec cruauté et les attache par plaisir. Un univers où le psychiatre a tout pouvoir, puisque même le juge des libertés se soumet à sa décision. Ils sont médecins, ils ont raison, affaire suivante. Sorti de l'asile, abîmé par les mauvais traitements, je replonge comme jamais dans l'alcool. La paranoïa s'instille en moi, la peur qu'on m'enferme à nouveau me détruit, car ce confinement illégal m'est secret, sans point presse, sans caméra. La France, ce pays roi de la démocratie, enferme 100 000 personnes chaque année, 100 000 innocents. Et mon livre est pour eux.
C'était la salle des machines. Un grand merci à Céline Leclerc, à Agnès Catou, notre réalisatrice, avec Jacques Hubert à la technique aujourd'hui. Dimanche prochain reviendra vite, mais d'ici là, réécoutez les épisodes précédents sur franceculture.fr ou podcastez la salle des machines sur l'application de Radio France.